ce n'est qu'avec hésitation et répugnance que je laisserai mon esprit retourner au camp de Lake et à ce que nous y avons vraiment découvert, et aussi à cette autre chose par-delà la terrifiante falaise de pierre. Je suis constamment tenté d'omettre des détails et de me contenter de suggérer au lieu d'établir les faits réels et les déductions inéluctables. J'espère en avoir déjà assez dit pour pouvoir survoler brièvement le reste. Plus exactement, le reste des horreurs qui se sont déroulées dans ce camp. J'ai parlé du terrain ravagé par le vent, des abris endommagés, des machineries déplacées, de l'agitation de nos chiens, de la disparition des traîneaux et d'autres objets, des hommes et des chiens morts, de l'absence de Jedney et des 6 spécimens enterrés de façon incompréhensible, étrangement bien conservés malgré toutes leurs plaies structurelles, témoignage d'un monde mort depuis 40 millions d'années. Je ne sais plus si j'ai mentionné qu'en examinant les cadavres des chiens, nous avons constaté qu'il en manquait un. Nous n'y avons pas prêté attention sur le moment. En fait, seul Danforth et moi l'avions remarqué. Ce que j'ai omis de raconter a principalement trait à l'état des cadavres et à certains détails qui peuvent peut-être introduire une logique hideuse et incroyable dans ce chaos apparent. J'avais alors tenté de faire oublier ces détails, car il était bien plus simple, bien plus normal, de tout ramener à un excès de démence de la part de Lake et de ses hommes. Car il est évident que ce vent démoniaque, soufflant des montagnes, aurait pu pousser n'importe quel homme à la folie, au cœur de ce centre de tous les mystères et de toute la désolation de la Terre. Bien sûr, le summum de la normalité restait l'état des cadavres, tant des hommes que des chiens. Tous s'étaient trouvés au milieu de quelque terrible affrontement et étaient déchirés et mutilés de façon horrible et inexplicable. Pour autant que nous puissions juger, la mort était venue par strangulation ou lacération. De toute évidence, les chiens avaient mis le feu aux poudres, car l'état de leur enclos de fortune témoignait du fait qu'ils y avaient ouvert une brèche pour s'en échapper. On l'avait édifié à quelque distance du camp à cause de la haine que les chiens témoignaient à l'égard de ces organismes archéens, mais cette précaution semblait n'avoir eu aucune utilité. Une fois abandonné contre ces parois, insuffisamment hautes et peu solides, battues par la monstrueuse tempête, ils ont sans doute paniqué, à cause du vent lui-même ou à cause de l'odeur subtile de plus en plus présente émise par ces spécimens cauchemardesques, nul ne peut le dire. Bien sûr, ces derniers avaient été recouverts d'une toile de tente, mais le soleil bas de l'Antarctique n'avait cessé de taper sur cette toile, et Lake avait précisé que ses rayons faisaient se ramollir et se détendre les tissus étrangement solides des créatures. Peut-être que le vent avait arraché la tente et avait malmené les corps au point de rendre manifeste leur présence olfactive, malgré leur incroyable antiquité. Mais quoi qui ait pu se produire, ses conséquences étaient bien assez hideuses et répugnantes. Peut-être devrais-je surmonter mon dégoût et révéler enfin le pire. Mais par le biais d'une conclusion catégorique exprimant une opinion basée sur les observations personnelles et les déductions les plus solides de Danforth et de moi-même. Que Jedney, le disparu, n'était nullement responsable des horreurs sans nom que nous avions découvertes. J'ai dit que les corps étaient affreusement mutilés. Maintenant, je dois ajouter que certains d'entre eux avaient été incisés et tailladés de la plus curieuse, froide et inhumaine des façons. Cela concernait les hommes aussi bien que les chiens. Tous les corps les plus sains et les plus gras, bipèdes ou quadrupèdes, avaient subi l'ablation de leur masse de tissus les plus solides, comme par un boucher consciencieux, et tout autour d'eux, on avait répandu du sel, prélevé dans les stocks de provisions ravagés des avions, ce qui évoquait les idées les plus révoltantes. Cela s'était déroulé dans l'un des abris à aéroplanes, d'où l'avion avait été sorti, et les vents subséquents avaient effacé toute trace susceptible de nous permettre d'échafauder une théorie plausible. Des morceaux de vêtements éparpillés, grossièrement déchirés, pendant le découpage des sujets humains, ne nous donnèrent pas le moindre indice. Inutile d'aborder la vague trace d'empreintes dans un des coins protégés de l'enclos détruit, car ces empreintes n'avaient rien d'humain, mais avaient quelque chose à voir avec tous les récits de traces fossiles dont Lake nous avait régalé durant toutes ces semaines. Sous l'ombre omniprésente de ces montagnes hallucinées, chacun doit se méfier de sa propre imagination. Comme je l'ai indiqué, à l'issue de nos recherches, Jedney et un chien ont été portés disparus. Lorsque nous avons fait l'horrible découverte dans l'abri, deux hommes et deux chiens étaient considérés comme manquants, mais la tente de dissection restait quasiment intacte, dans laquelle nous sommes entrés après avoir fouillé les tombes monstrueuses, nous a dévoilé un nouveau mystère. Elle n'était pas telle que Lake l'avait laissée, car les parties des monstruosités primales qu'il avait étudiées avaient été retirées de sa table de travail improvisée. En fait, nous avions déjà réalisé qu'une des six choses démentielles et imparfaites que nous avions trouvées si étrangement enterrées, celle présentant une odeur particulièrement hideuse, devait correspondre aux fragments disséqués de l'entité que Lake avait cherché à analyser. Sur la table du laboratoire, et tout autour d'elle, gisaient d'autres choses, et nous n'avons pas tardé à comprendre qu'il s'agissait des organes d'un homme et d'un chien, disséqués avec soin, quoique par une main inexperte. Je préfère épargner les survivants en gardant secrète l'identité de cet homme. Nous n'avons pas trouvé les instruments anatomiques de Lake, mais des indices montraient qu'ils avaient été nettoyés avec soin. Le poêle à essence avait également disparu, bien que nous ayons trouvé autour de son emplacement de nombreuses allumettes grillées. Nous avons enterré les organes humains à côté des 10 autres hommes et ceux du chien avec ses 35 congénères. Concernant les étranges nomenclatures sur la table de laboratoire et les livres illustrés jonchant le sol autour d'elle, nous étions trop stupéfaits pour émettre des suggestions. Voilà quelle était la pire des horreurs du camp. Mais d'autres détails nous ont laissés tout aussi perplexes. La disparition de Jedney, de l'un des chiens, des 8 spécimens intacts, des 3 traîneaux, de certains instruments, de livres illustrés techniques et scientifiques, des nécessaires à écriture, des torches électriques et des piles, des provisions et de l'essence, du matériel de chauffage, des tentes de rechange, des manteaux de fourrure et de tout le reste. Tout ceci était au-delà de toute conjecture raisonnable. Tout comme les éclaboussures d'encre sur certains morceaux de papier et les indices d'étranges fouilles et de manipulations incompréhensibles autour des avions et de tous les autres appareils mécaniques, aussi bien au camp que sur la zone de forage. Les chiens semblaient avoir horreur de ces machines en désordre. Il y avait aussi le garde-manger délogé, la disparition de certains produits basiques et l'amas, d'un comique incongru, de boîtes de conserve ouvertes de toutes les façons les plus improbables.